Radio Scénique, Éric Dotter, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons de regarder un peu au-dessus de notre épaule. Et nous avons choisi deux spectacles qui nous en donnent l'occasion. Le premier s'appelle Un homme sans titre et il est présenté à la Coupole, la salle du théâtre de la ville située place du Châtelet. Un homme y revient sur le passé, particulièrement sur l'histoire de son père, ouvrier en Normandie, après s'être exilé de sa Kabylie natale. Le récit est tiré du roman de Xavier Leclerc et c'est une mise en scène de Jean-Louis Martinelli qui a co-adapté le récit. Nous recevons Jean-Louis Martinelli dans Radio Scénique. Soyons tout à fait honnêtes, au jour où nous enregistrons cette émission, nous n'avons pas encore vu « Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid », le spectacle que Julien Lefkovitch présente au Théâtre Paris-Villette. Mais il nous a semblé intéressant de nous pencher sur ce spectacle qui revient sur une partie de l'histoire de la radio libre et une partie de la société des années 80. On en reparlera dans la deuxième partie de cette émission avec Julien Lefkovitch et Laure Blatter. Ça y est, vous avez donc le sommaire de cette 28e édition de votre magazine de théâtre sur Allegre FM. Vous avez le programme, éteignez donc vos portables et baissez la lumière, voici Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dotter. Le théâtre sur Allegre FM.
Jean-Louis Martinelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes metteur en scène. Alors, j'avais commencé à faire le compte de vos mises en scène. Je vous avais dit 70, vous m'avez dit non, c'est plutôt de l'ordre de 90.
Hein. Je crois, ouais. Je sais pas, j'ai pas compté encore récemment.
Mais... La première, elle est en 1975. Elle était dédiée au coureur cycliste Fausto Coppi.
Mais j'avais commencé avant, mais peut-être c'est pas dans les CV.
Alors,
sur une pièce qui, quand j'étais étudiant, qui s'appelait Défense de circuler sous la charge et qui dénonçait les conditions de travail à l'usine. C'était l'époque où je pensais que le théâtre pouvait changer le monde.
Alors, vous avez été successivement directeur du théâtre de l'Ouest lyonnais, qui est devenu le théâtre de Lyon, du TNS, du Théâtre national de Strasbourg et des Amandiers de Nanterre.
Oui.
Et aujourd'hui, vous nous présentez une pièce inspirée d'Un homme sans titre. On va écouter un petit, on va mettre un tout petit tapis qui nous met dans l'ambiance. Parce qu'Un homme sans titre, c'est d'abord un récit, la biographie paternelle de Xavier Leclerc.
Oui, c'est-à-dire que c'est d'autofiction, c'est une double. On peut considérer que le roman est une lettre au père, et effectivement, ça commence par le récit et la biographie du père. C'est des récits qu'on a. J'ai l'impression qu'on connaît de cette immigration des années 60. Et ensuite, on bascule vers la propre biographie du fils. Et ce qui est intéressant dans cette lettre au père, c'est que c'est aussi, et c'est essentiellement, un récit d'émancipation de l'auteur qui dit cette chose très belle, à savoir à propos de son père, qui s'est déraciné pour que ses enfants s'enracinent. Et c'est dans cette double tension que se joue ce récit.
Alors ça commence par Camus.
Oui, parce que Xavier Leclerc se réfère à Camus et à un reportage que Camus a fait qu'il avait 26 ans.
Qui a été réuni dans un recueil.
Un recueil qui s'appelle Misère de la Kabylie. Il était soi-disant parti pour faire un reportage touristique, mais en fait, quand il a constaté l'état de misère de la Kabylie, il a écrit là-dessus. Et en fait, le papa de Xavier Leclerc, qui s'appelle Mohand Saïd Aït Taleb, était un de ses enfants qui traînait dans la Kabylie à ce moment-là. Mais très vite, on s'en a franchi. Cette partie-là va relativement vite. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette tension qu'il y a entre l'origine et aujourd'hui, et ce déchirement qu'il y a, et ce déchirement qui continue par le changement de nom que va
opérer.
Alors
on y reviendra plus tard, tout à l'heure. On va rester focalisé sur l'histoire de ce père. Ce père donc qui est recruté par des patrons peu scrupuleux, qui à l'époque, il y a besoin de main-d'œuvre. On est dans les années 70.
Oui, on allait recruter très largement.
On cherchait des hommes bien bâtis.
On cherchait des hommes bien bâtis, effectivement. Et comme dit Xavier Leclerc, le tampon vert était expéditif. Il y a des tas de gens qui sont arrivés à ce moment-là parce qu'on en avait besoin dans l'industrie. De jour, je ne sais pas si c'était des patrons peu scrupuleux. En tout cas, il travaillait dans une. Après quelques autres boulots, il a travaillé le plus longtemps dans une société qui s'appelait la Société métallurgique de Normandie, la SMN, jusqu'à ce que cette société soit fermée. Il a consacré sa vie, comme des tas de gens, et il était, dit le texte, fier de sa carte d'ouvrier, qui était le seul papier en fait qu'il possédait réellement, quoi.
Alors il avait quitté la minéralité. Sans nature, la minéralité absolue de ce désert kabyle pour la chaleur des hauts fourneaux.
Oui, et alors ça c'est l'histoire singulière, mais au bout du compte c'est l'histoire de tous les exils. Ça parle, bon, on peut le voir effectivement du trajet de la Kabylie vers la France, mais plus largement toute personne qui a connu le déracinement, c'est comment on joue avec ça et comment se crée une tension à l'intérieur des êtres entre l'origine et le présent, entre la terre natale et la terre d'adoption. Et c'est cette tension-là que met en jeu l'écriture de Xavier Leclerc.
Alors c'est là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement votre récit est très universel, parce que finalement ce sort que nous narre l'auteur lui-même, hein, vous avez choisi de faire parler l'auteur, donc Xavier Leclerc, votre comédien... qui est seul sur scène, on va dire son nom.
Il s'appelle Mounir Margou, mais vous savez, quand un metteur en scène fait un spectacle et s'engage avec un acteur, il faut qu'il y ait une relation tout à fait particulière. Mounir, j'ai déjà fait plusieurs spectacles avec lui, je considère que c'est un grand acteur. Et travailler seul avec un acteur, ça pourrait être un peu frustrant. On pourrait dire, c'est quoi la mise en scène? Non, c'est de faire œuvre commune et d'accompagner l'acteur dans son geste pour l'amener au meilleur de lui-même et lui donner la plus grande confiance dans son être là sur le plateau.
À tel point qu'il a co-adapté avec vous le texte.
Oui, mais je sens. Il y a une expression qu'on entend régulièrement, on parle d'écriture de plateau, comme si le théâtre s'était fait ailleurs que sur les plateaux. Il s'est toujours fait sur les plateaux, le théâtre. Et dans une conversation d'artiste, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est mettre en scène, c'est nourrir un dialogue avec les différentes composantes qui fabriquent un spectacle, et en particulier avec l'acteur qui est sur scène.
Alors je pense que quand on dit écriture sur le plateau, c'est qu'il y a une partie du texte qui vient des improvisations.
Non ? Oui, peut-être, mais en tout cas l'adaptation, elle s'est faite au plateau. Il y a des choses qu'on avait, lagué une grande part du texte, on avait centré sur l'adaptation du roman, sur le rapport entre le père et le fils, parce qu'il y a beaucoup plus de scènes que ça qui parlent dans le roman de la vie familiale et tout ça.
Mais on va y revenir, on a largement le temps d'évoquer tout ça.
On a voulu l'axer essentiellement sur le rapport du père et du fils.
La participation de Xavier Leclerc, déjà comment est-ce que vous êtes tombé sur ce texte? On connaît l'histoire de Xavier Leclerc par son changement de nom, son histoire de transfuge de classe, hein, pour employer un terme qui est un peu galvaudé. Par contre, ça a empêché la plupart des gens de se pencher sur son écriture. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'adapter un homme sans titre?
C'est après la lecture, il se trouve que c'est ma compagne, Christine City, qui a entendu à la radio une émission où Xavier parlait. Elle me dit, tiens, tu devrais écouter ça parce que ça pourrait t'intéresser. Du coup, j'ai acheté le bouquin, j'ai rencontré Xavier et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et du coup, maintenant, on nourrit une relation très amicale et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Il n'avait pas songé que son texte pourrait faire l'objet d'une adaptation?
Je ne sais pas. En tout cas, il s'y est montré tout à fait ouvert et favorable.
Alors, votre choix de mise en scène, c'est une mise en scène extrêmement, extrêmement sobre. D'ailleurs, si on en croit le Monde... Il parle de vous comme d'un homme qui n'est pas un homme d'éclat. Vous vous imposez discrètement et en douceur. C'est ce que disait Le Monde il y a de ça quelques années.
Sans tapage, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire du tapage systématiquement. Non, ce qui est important, c'est de mettre des œuvres sur des plateaux, de donner à entendre une parole. Après, si vous voulez, je suis... J'imagine, comme beaucoup de monde, un peu irrité par l'autoproclamation, ce qui est important, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fabrique, et c'est ça qui m'importe.
Oui. C'est ce qu'on fait exister sur scène.
Bien sûr.
Alors, ce qu'on fait exister sur scène, c'est un homme qui arrive, il est en train de songer, peut-être en train de réfléchir à ce qu'il va écrire. Il a un pull rouge, pantalon noir, il arrive sur ce décor très dépouillé, une table en formica avec quatre chaises en formica également, sous une lampe qualifiée de pisseuse, je crois.
Oui, oui.
C'est le décor de l'enfance pauvre de l'auteur.
Oui, mais c'est une. D'ailleurs, c'est dit dans le texte. C'est une des réminiscences de la cuisine familiale qu'on a mis sur le plateau, et en fond un rideau qui peut évoquer l'atelier de métallurgie, qui peut évoquer voilà, c'est tout. Et puis ensuite, on se sert de certains éléments pour raconter la famille, à savoir essentiellement des chaises qui se trouvent sur le bord du plateau, mais je ne voyais pas la nécessité d'une scénographie plus bavarde et plus lourde. Les images, où se créent les images de théâtre? Moi, j'ai toujours pensé qu'elles se créent essentiellement et qu'elles doivent être créées essentiellement dans la tête du spectateur. C'est-à-dire que le trop-plein, c'est-à-dire, c'est un peu ce que Roland Barthes dit pour l'écriture, c'est-à-dire que, pour la lecture, je veux dire, à savoir que, une lecture devient intéressante si moi je peux écrire dans la marge. Pour le spectateur de théâtre, il me semble que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse organiser ses propres images dans le courant de la représentation, donc qu'on l'amène à constituer lui-même son corpus d'images. Si la représentation est trop pleine, moi j'ai l'impression qu'on me prend pour un imbécile et qu'on me montre du doigt ce que je dois absolument regarder. Et ça, j'aime pas ça.
Alors de temps en temps, vous trouvez nécessaire de faire intervenir l'image, notamment l'image de cette métallurgie, de cet acier en fusion qui est projeté sur ce rideau de fond de scène.
Oui, bah ça c'était oui, effectivement, on avait besoin de renvoyer à ces images-là d'une métallurgie qui a à peu près disparu. C'est des images d'archives, mais on a presque l'impression que c'est de la préhistoire, parce que c'est vu la désindustrialisation qui s'opère de nos jours. Je pense que pour un public un peu plus jeune, je sais pas, ils ont déjà mis du foutre les pieds dans un atelier de métallurgie et dans une fonderie.
De temps en temps, vous avez voulu remplir des espèces de points d'interrogation que vous trouviez trop forts dans le texte en les illustrant par de l'image.
Oh oui, ça joue à trois reprises. Et effectivement, oui, non, mais c'est pour qu'il y ait des allers-retours sur la mémoire même du narrateur. C'est-à-dire qu'il évoque des séances cinéma des soirées télé
alors
familiales.
On en reparlera tout à l'heure parce que...
On en reparlera tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Alors ces chaises qui sont disposées sur le bord, on se dit ce plateau est bien mal rangé, mais finalement elles vont être constitutives de l'augmentation de la famille, de l'accroissement exponentiel de la famille.
Mais c'est-à-dire que ça nous a permis de raconter le cercle familial, et puis bon, c'est assez drôle parce que comme ils sont neufs dans la famille, c'est l'installation dur et une chaise après l'autre, et ce cercle de chaises représente effectivement le cercle des frères et sœurs et des neufs qui constituent cette famille. Oui.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1, vous êtes à l'écoute de Radio Scénique. Avec Jean-Louis Martinelli, on évoque un homme sans titre.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, c'est partir qu'on veut, revenir qu'on part. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis née quelque part. Je suis née quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas?
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Le théâtre sur Aligre FM où on parle d'un homme sans titre, la pièce mise en scène par Jean-Louis Martinelli. Pendant qu'on écoutait Ayo, on se disait tous les deux que c'était un récit doux, c'est un récit où on se fait emporter par le talent du comédien et par son talent de conteur. C'est un conte là, qui nous raconte cette histoire ouvrière, cette histoire familiale, cette histoire d'exil.
C'est une histoire à hauteur d'humanité, c'est une histoire qui ne, et c'est je pense le point de vue de l'auteur, de ne pas être dans une instance de jugement, d'être à hauteur d'homme, d'essayer de comprendre les êtres, aussi bien son père que lui-même. Et en même temps, il énonce la réalité. Son père a été torturé pendant la guerre d'Algérie. Il énonce la violence
familiale,
la violence de la colonisation, la violence même à l'intérieur de la famille, la violence du père, la sienne, celle qu'il va vivre lui-même quand il va a énoncé à ses frères et sœurs son homosexualité, mais jamais dans un rapport de haine, de violence, d'un décolonialisme tendu. C'est, je crois profondément que l'auteur est un homme qui cherche la réconciliation entre l'origine et aujourd'hui, et une réconciliation France-Algérie. Je crois qu'il travaille d'ailleurs dans le dernier livre paru qui s'appelle Le pain des Français, où il parle de notre épisode de la colonisation, de la première partie des années 1830, en essayant de donner les faits, mais sans être dans l'accusation du présent. Et non, je trouve que c'est essentiel aujourd'hui, je trouve.
Je vais être très honnête avec vous, quand j'ai vu le thème de ce spectacle, hein, on se penche sur la décolonisation, le fils d'un homme qui parle de son exil, je me suis dit, voilà, un énième spectacle sur le thème. C'est vrai que c'est un thème qui est très abordé, mais il y a un sens du récit, un sens du conte tout à fait particulier, dont le sourire n'est pas exclu.
Oui, c'est quand même pas la partie la plus principale du texte, mais non, c'est la douceur. Il y a un spectateur l'autre jour qui me dit ce que je trouve très beau, en plus dans l'interprétation de l'acteur, on a l'impression qu'il caresse le texte. C'est d'être dans le factuel et encore une fois dans ce... Parce que, bon, par exemple, Xavier Leclerc, après un parcours...
Donc Xavier Leclerc, il est né en 79.
Je crois, oui. Et donc, après avoir quitté sa famille, quand il a énoncé son homosexualité, que...
Après avoir reçu des menaces aussi.
Après avoir reçu des menaces, mais c'est aussi le reste de la famille qui ne le comprend pas. Il s'en va, et au bout d'un moment, ne trouvant plus de boulot, il ne trouve pas d'autre solution que de traduire son nom, en fait, pas de le changer, de le traduire. Mais cet écartèlement, il le vit encore, puisque il ne cesse d'écrire sur l'Algérie, en fait, et sur l'origine. Et donc, et il pose cette question: est-ce que c'est trahir mon père et l'origine que le fait d'avoir changé de nom ou pas. Et lui dit non, mais c'est au contraire de lui rendre une place, parce que je peux occuper une place dans cette société. Enfin, c'est une question ouverte, hein. Chacun chaque individu qui est confronté à cette situation peut y répondre de façon différente. C'est pas...
Alors d'autant plus que son père, il ne l'a pas revu pendant des années.
Non, et il ne l'a pas revu, et quand bien même quand une de ses sœurs l'a informé qu'il ne restait quelques temps à vivre à son père, il n'y est pas allé, et il apprend sa mort, et donc cette lettre
qui conclut le spectacle.
Conclut le spectacle, et l'écriture de son livre, c'est, je pense que c'est une volonté de rendre hommage au père, mais post-mortem. Alors la douleur aussi, j'imagine, pour Xavier Leclerc.
Alors cette lettre, il le dit explicitement, c'est une lettre au père, je la rédige dans la langue de Camus.
Oui. Oui, mais c'est je sais pas, je suis pas assez spécialiste de Camus pour pouvoir. Non, mais c'est il rédige dans la langue de Camus. Oui, bien sûr, c'est pas qu'une référence à Camus. Il la rédige en français, et donc tout en étant en permanence à la recherche de son origine et à la recherche de sa terre d'origine, de la Kabylie, en même temps, il reconnaît qu'il a un profond amour pour la langue française et que des gamins, il s'est plongé dans la langue française. Donc c'est cette double identité qui fait tension dans le corps même, je pense, dans le corps même de l'écriture, dans le corps même de l'auteur et donc dans le corps même de l'acteur.
Alors justement, l'acteur sur lequel j'ai envie de revenir, hein, parce que...
Ben vous avez raison.
Il nous prend, Mounir Marghoum, il nous prend... petit à petit par la main. Au début, on a un récit qui est assez objectif.
Oui.
Et petit à petit, on vire vers le conte.
Oui. Oui, et puis au départ, c'est une histoire qui est... Je pourrais dire, vous l'avez dit d'ailleurs en présentation, c'est une histoire qui peut paraître assez convenue, dont on a beaucoup parlé, donc on la traverse assez vite, hein, ça ne dure pas très longtemps, ça dure une dizaine de minutes, avant de rentrer dans quelque chose de plus douloureux, de plus personnel, c'est-à-dire comment on passe de la biographie du père à celle du fils, et comment l'histoire du père va contaminer l'existence même du fils. Et c'est là que ça commence à prendre, effectivement, puisque c'est au moment où l'interprète commence à dire « je » et que le spectateur qui est en face regarde le corps de l'acteur comme le locuteur de sa propre existence et non pas de celle de son père.
Cet acteur, justement, quelles instructions vous lui avez données pour que petit à petit on se sente embarqué dans le récit ?
Ah, encore une fois, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà fait plusieurs spectacles. Vous savez, je crois que une des fonctions de metteur en scène, c'est de donner confiance. Et donc de dire, moi ce qui m'importe, c'est d'essayer de réduire la distance personne-personnage, qui est même un certain trouble. Plusieurs fois dans des représentations, pas là, mais quand on l'a joué, par exemple, je ne sais pas, à Toulon ou à Marseille, des spectateurs sortaient en disant à Mounir, ah là, c'est vraiment courageux de raconter votre propre histoire. Donc c'est de dire je et de laisser à penser que celui qui est sur scène, c'est le propre de tout le théâtre d'ailleurs, hein. Mais en tout cas là, plus particulièrement, non, c'est d'essayer d'être dans les mots. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Lars Norén, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui disait aux acteurs régulièrement, juste les mots, votre émotion je m'en fous, elle n'est pas importante, juste les mots, donner à entendre les mots. Donc ça c'est revenu régulièrement, et d'enlever tout ce qui pourrait être parasite de théâtre, que j'aime pas trop en fait, c'est-à-dire produire des signes effectivement sur le plateau. Il en produit avec le X par exemple de son nom, de la signature de son père, qui signe avec une croix.
Lui s'appelle Xavier.
Lui-même s'appelle Xavier, et quand il cherche les raisons pour lesquelles il s'appelait Xavier, il dit peut-être que c'est parce que le X, que Xavier commence par un X, et que je retrouve le X de mon père, y compris dans sa propre signature. Si vous voulez, c'est d'enlever tous les moments, mais encore une fois, c'est pas le propre à ce travail. Je crois que
c'est pas un texte analytique, en plus, c'est un texte descriptif sur lequel on est amené à analyser les choses. Vous proposez pas des schémas d'explication ?
Ah ben non, j'espère pas, non. Non, 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 le... Si vous voulez, c'est vrai pour le théâtre, mais pour toute activité artistique, c'est un espace qui doit offrir des questions et pas... les gens qui apportent des réponses, c'est soit des idéologues, soit des communicants, ce que n'est, à mon avis, pas quelques pratiques artistiques et quelles qu'elles soient. On est là pour ouvrir des questions et pour poser des questions. C'est au spectateur après se donner les réponses qu'il
veut. Pas pour donner de leçons. Aucunement n'en donne. Dernière question, un homme sans titre. Pourquoi ce titre?
Ce titre,
parce
qu'il n'avait pas de carte d'identité. La seule carte qu'il avait, c'était une carte de transport, dit-il. Et c'était le seul...
Alors évidemment, je n'ai pas le talent de Mounir Margoum, mais je vais juste citer un extrait. Si tu étais si attaché à ta carte d'ouvrier, c'est sans doute parce que tu étais un homme sans titre. Toi qui es né dépossédé de tout, titre de propriété comme de citoyenneté, tu n'auras connu que des titres de transport et de résidence.
Voilà.
Jean-Louis Martinelli, merci encore. Je rappelle que vous êtes metteur en scène d'un homme sans titre qui se joue tout en haut, sous la coupole du théâtre de la ville.
Dans une salle qui est magnifique, je trouve, dans le rapport à l'acteur. Et pour ce spectacle, c'était tout à fait idéal. Ouais.
Et c'est Mounir Margoum qui interprète Xavier Leclerc dans
Absolument.
Ce spectacle. Merci. Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1, vous écoutez Radio Scénique et on parle théâtre. Quittons maintenant Jean-Louis Martinelli et rejoignons le théâtre Paris-Villette où nous attend une partie de la troupe de « Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid ». Radio née il y a plus de 45 ans, Aligre FM se devait de s'intéresser à ce spectacle qui met en scène la dernière diffusion de l'émission d'une de ses consoeurs, Fréquence Gay. Le programme s'appelait Lune de Fiel et c'était en septembre 1989 déjà. On en écoute la bande-annonce et on rejoint ensuite les comédiens que nous avons rencontrés au théâtre Paris-Villette entre deux répétitions.
Figure-toi que j'ai retrouvé une cassette du mardi Lune de Fiel. Ça m'a fait tellement de bien d'entendre Dany chanter comme s'il était là dans la pièce avec moi, là, tout d'un coup. Parfois, je ferme les yeux et je l'entends.
Jusqu'à 1h30 avec vous. Ce soir, c'est la dernière émission, mes petits chéris. Ah ouais, alors il faut le 43 57 69 70, c'est le numéro de téléphone à composer pour passer à l'antenne.
Bah voilà, bah je téléphone pour raconter un fantasme, qui est même pas un fantasme, une réalité que je fais très souvent.
C'est quoi?
C'est de me branler avec un gant de toilette, mais un gant de toilette chaud.
Avec des nouilles dedans, non?
Oui, voilà, ouais.
Belle et bien droite, madame. Je suis certaine que je reviens du bahut, je suis super relax. Vas-y, je t'écoute.
Je veux l'été en plein soleil et l'amour qui me réveille. Avec tendresse ou bien violence. J'ai besoin de faire une escale sur des photos sentiments.
Julien Lefkovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur et metteur en scène de Ce soir, j'ai la fièvre et toi, tu meurs de froid. On y parle d'un programme emblématique, d'une radio emblématique. D'ailleurs, on est en train d'entendre le générique de Lune de Fiel sous nos voix. Lune de Fiel, c'était quoi?
Alors, Lune de Fiel, c'était une émission sur Radio Fréquence Gay, puis Radio Future Génération, donc Radio FG, qui a duré de 1986 à 1989, qui était animé par notamment David Girard et Zaza Dior, et qui était en fait une libre antenne durant laquelle des auditeurs et des auditrices pouvaient appeler pour parler de sexualité en très gros, quoi, en général. Donc, ça passait des expériences, un fantasme, ce que vous voulez.
Alors, Laure Blatter, vous êtes comédienne sur ce même spectacle. Mm-hmm. Quel personnage est-ce que vous interprétez? Est-ce qu'on peut parler de personnage véritablement?
Je pense qu'on peut plutôt parler de figure, dans le sens où c'est des gens qui ont à la fois existé, qui ont habité la radio telle qu'on peut encore l'entendre dans les archives, mais à la fois c'est des recréations. Je pense que c'est plutôt des figures d'amitié ou de compagnonnage qu'on a essayé de reconstituer. Moi, mon rôle, c'est Fanfan. Donc potentiellement Françoise, mais en tout cas Fanfan. Donc c'est une espèce d'agglomérat de toutes les personnes féminines et lesbiennes qui accompagnaient la radio à cette époque-là.
On va revenir sur ces figures, sur ces personnages. Julien Lefkovitch, vous n'aviez pas l'âge d'écouter Lune de Fiel?
Non, tout à fait.
Un programme qui s'est achevé en 1989.
Oui.
C'est d'ailleurs la dernière de ces émissions que vous reproduisez sur le plateau.
Oui. En grande partie, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des archives de l'émission et on a pioché dans les archives qui nous intéressaient le plus. Il s'avère que la plupart d'entre elles étaient réellement des archives de la dernière émission. On y a ajouté des archives qui sont celles de l'avant-dernière ou encore un peu avant, mais c'est en effet à celles de la fin 89, du mardi 26 septembre 89 qu'on utilise. Et en effet, j'étais pas né du tout, je suis né en 92.
Comment vous en êtes venu là? Qu'est-ce qui vous a intéressé? C'est l'aspect radiophonique ou l'aspect emblématique d'un changement de société?
C'est les deux. Déjà, d'un point de vue radiophonique, ce que je trouvais très intéressant à essayer au théâtre, c'était de pouvoir mettre en scène ce que j'imaginais et ce qu'on aurait pu voir, ce qui n'était pas donné aux gens qui ont réellement écouté l'émission à l'époque, vu que c'était de la radio. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais maintenant la radio est souvent filmée, alors que là, à l'époque, on ne voyait rien, et donc je voulais mettre ça en scène, c'est-à-dire imaginer tout ce qui pouvait se passer, ce qui se passait réellement quand les gens parlaient, puis ce qui se passait en arrière-plan, les dynamiques entre les animateurs et les animatrices, les messages cachés, les non-dits, tout ce qui pouvait jouer dans les gestes et les regards et les positions et les situations, c'est ça que je voulais faire. Et puis c'était aussi en effet pour m'intéresser à pourquoi cette matière-là, quand moi je l'ai écoutée pour la première fois, comme vous dites, j'étais pas né, j'ai 34 ans, et je me suis dit, bizarre, comment ça se fait que ça me fait cet effet-là? Qu'est-ce qui a changé en quasiment 40 ans, un peu moins de 40 ans?
Laure Blatter, vous qui êtes comédienne et qui êtes certainement pas tellement plus vieille que, que Julien Lefkovitch, quand vous avez été associée à ce projet, qu'est-ce qui vous a intéressé?
Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était qu'à la fois, c'était des gens qui avaient effectivement à peu près notre âge, même parfois plus jeunes que nous. Et ça, c'est assez dingue parce que moi, j'ai 31 ans et David Girard est mort à 30 ans. y a cette chose étonnante où en fait il avait fait tellement de choses dans... Enfin, je trouve qu'on devient... On est des ados plus longtemps, nous, notre génération. Et en même temps, il y avait cette, ce rapport donc à la jeunesse qui m'intéressait énormément. J'avais envie de me glisser aussi dans leur pompe. Et à la fois, ce qu'ils ont vécu était d'une telle violence. Enfin, c'est-à-dire à la fois le fait que leur homosexualité était moquée, réprimée ou corsetée. Comme, et à la fois, l'épidémie du sida qui est arrivée et comment, en fait, cette vague de liberté s'est fait rattraper, quoi.
Parce qu'à l'époque, dans Lune de Fiel, cette émission que vous reproduisez sur le plateau, la parole, elle était très libre. On parlait de ces fantasmes homo, hétéro, lesbien, sans aucune restriction. Mais la période, elle n'était pas anodine non plus.
Non, la période n'était pas anodine non plus du tout. Et c'est ça aussi que moi, j'ai voulu traiter dans mon spectacle. C'est-à-dire, je me disais, c'est intéressant, pour une période qui est plus facile, en tout cas selon le milieu et en France aujourd'hui, pour les homosexuels et les lesbiennes, il y a une parole qui est peut-être pour plein de raisons différentes plus corsetée, plus privée, plus discrète, là où quand on tombe sur ce genre d'émission, alors qu'on était à une époque où la société était très différente, où l'épidémie de sida avait fait des ravages dans l'esprit public, en plus dans l'esprit collectif, c'est-à-dire les gens
David Girard en est mort, hein.
David Girard en est mort moins d'un an après l'arrêt de l'émission d'ailleurs. Eh ben, on constate que c'est cette parole très libérée, elle vient justement pallier quelque chose de plus dramatique derrière, et c'est ça qui m'intéressait. Ouais.
Alors, vous avez eu l'impression, Laure Blatter, de découvrir une époque où une époque de rentrer dans une espèce de préhistoire de la parole et de la radio en découvrant ce texte.
Je pense qu'effectivement, il y avait un rapport à la radio que nous, je crois qu'on ne connaît plus.
Et à la parole.
Et à la parole radiophonique,
oui,
à la parole prise. Oui, oui, je pense qu'il y avait un rapport à la, ou en tout cas à la, comment on pourrait dire ça, à l'irrévérence qui était vraiment particulier. Et je pense que ça, c'était vraiment très intéressant aussi à travailler dans le jeu. C'est-à-dire qu'il fallait trouver, je pense, où est-ce que ça se situait, c'est-à-dire à un endroit qui était dénué de tout cynisme ou de toute ironie. Il y avait vraiment quelque chose, d'une espèce de grande joie de pouvoir... dire ce qu'on pensait ou dire trop. Il y avait comme un truc presque un peu rablésien, je trouve, dans le rapport à la parole.
Oui, parce que David Girard le proclamait, la morale n'existait pas pour lui. C'était quelque chose qui lui était parfaitement étrange, Julien
Lefkovitch. Oui, et d'ailleurs, il a été très controversé pour cette raison-là aussi à cette époque. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était tellement exubérant, tellement extravagant dans la parole et dans d'autres choses, et qui en plus s'était beaucoup enrichi sur ce fond de commerce-là, c'est-à-dire sur son exubérance, sur ses saunas, ses boîtes gays, etc.
Oui, on va revenir sur le personnage, ouais. qui est assez croustillant.
Mais voilà, il était connu pour ça, c'est-à-dire pour cette outrance-là, et c'est aussi cette figure-là qui nous intéressait.
There are things that you guess and things that you do. There's boys you can trust and girls that you don't. There's little things you hide and a little thing that you show. Sometimes you think you're gonna get it, but you don't. That's just the way it goes. I swear I won't tease you, won't tell you no lies. Come on.
baby. Why do you call pornography? Don't you know I love it till it hurts me, baby? Don't you think it's time to have sex?
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Julien Lefkovitch, Laure Blatter, avec vous, nous parlons donc de Ce soir j'ai chaud et toi tu meurs de froid, qui va piocher dans Lune de Fiel, l'émission de libre parole sexuelle des années 80, la matière d'un spectacle qui est présenté au théâtre Paris-Villette. Ce spectacle et cette parole prise, c'était un acte politique et militant.
Ce spectacle-là, c'était, oui, alors ce qui a précédé le geste était au départ en effet une pensée politique et une pensée militante, on va dire. Après, c'est justement en écrivant le spectacle, en découvrant les archives et en les travaillant et en commençant à écrire un texte de fiction, parce que c'est ce dont il s'agit dans mon spectacle, il y a de la fiction, des choses que j'ai inventées qui viennent s'insérer dans le récit. C'est devenu aussi un récit intime, quelque chose de beaucoup plus... intime, des histoires d'amitié et d'amour, et c'est par ce récit-là qu'on a finalement essayé de faire un geste politique et militant.
Alors concrètement, Laure Blatter, vous êtes parfois, l'ensemble des personnages, y compris vous, Julien Lefkovitch, qui est au plateau, vous êtes parfois en interview autour de cette table avec des micros, des choses qu'on connaît bien à Ligre FM, et d'autres fois, vous accouchez d'un récit intime.
Oui, absolument. En fait, y a dans la pièce cette espèce d'aller-retour au sens propre entre plusieurs générations, entre plusieurs époques. C'est-à-dire qu'on dialogue, en fait, nos personnages dialoguent aussi avec la mort, de leurs amis, avec le fait...
Elle est omniprésente à cette époque-là.
Oui, je pense qu'elle est...
Surtout dans le milieu homosexuel qui est frappé de plein fouet par l'épidémie.
Je pense qu'elle est vraiment effectivement omniprésente et dans le spectacle. Et du coup, je pense qu'à ce titre-là, le spectacle parle beaucoup de cette époque-là, parce que la mort est toujours là, et qu'on la contre avec le rire, ou qu'on la contre en se serrant les uns contre les autres, ou en essayant de parler encore à ceux qui sont partis, elle est toujours au cœur du projet, c'est sûr.
Cette émission, Julien Lefkovitch, et donc votre spectacle, il a deux personnages centraux qui animaient ce débat, qui sont David Girard et Zaza Dior. On va revenir sur David Girard, qu'on a appelé le citizen gay. Qui était-il ? Il était né en 59 d'une mère prostituée,
oui,
et d'un
fait.
Père qui avait pris les jambes à son cou assez rapidement. Et il a eu une vie absolument hallucinante. Est-ce que vous en rendez compte dans le spectacle un petit peu ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, on en rend compte de manière assez... c'est en filigrane dans le spectacle. Parce qu'en effet, quand moi je me suis intéressé à la figure de David Girard, j'ai découvert au fur et à mesure cette vie hallucinante qu'il avait eue. Le fait, comme disait Laure au début de l'interview, qu'à 30 ans à peine, il avait déjà fait tellement de choses. Il était millionnaire, il avait ouvert des boîtes, des saunas, des trucs, tout ce que vous voulez. Et qu'en plus, il avait des avis, comme je le disais, très controversés au sein de la communauté gay, et à raison. Mais quand on écoute les archives, justement, ce qui est intéressant, c'est d'entendre l'espèce de cohésion qu'il avait fédérée autour de lui, avec tous ces gens qui animaient cette radio avec lui, et l'immense popularité que l'émission avait eue. Et donc au fur et à mesure du spectacle, ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi comment, de manière assez souterraine, on peut sentir, et on l'entend finalement dans les extraits qu'on utilise, une espèce de figure presque trop présente, très, très écrasante, qui prenait énormément de place et qui en fait pouvait être très brutale. Et ça, on a réussi à le peindre un tout petit peu tout le long du spectacle.
Oui, vous avez donc évité l'écueil qui consistait à faire un spectacle sur deux figures emblématiques et très pittoresques qui étaient David Girard et Zaza Dior, qui était un travesti et une femme de la nuit parisienne. Vos rôles, vous les répartissez comment, Julien ? Je crois savoir que c'est vous, David Girard.
Alors non, moi je joue une figure qui s'inspire de celle de Zaza Dior, justement,
de Zaza Dior,
que j'ai transformée en un autre personnage pour plein de raisons, mais qui s'appelle Yaya dans le spectacle. Et puis il y a aussi d'autres interventions carrément de Zaza Dior qui sont réparties à d'autres personnages. Il y a un autre acteur, Guillaume, qui joue le rôle de David Girard, qu'on a appelé Danny.
Guillaume Costanza.
Exactement, Guillaume Costanza. J'ai choisi justement d'autres prénoms pour pouvoir aussi me donner une forme de liberté dans la construction des personnages et pour pouvoir respecter ma propre loi, disons. Et puis il y a d'autres personnages comme celui de Laure, par exemple, qui arrive.
De Laure Blatter, oui.
Exactement, de Laure Blatter, où j'ai et de Sarah Calcine, où j'ai inventé d'autres personnages, notamment des personnages féminins, pour qu'il y ait plus de relief, parce qu'on les entend parfois un peu moins dans l'émission. Et puis, il y a aussi le personnage de Ricardo dans le spectacle, qui est le personnage du régisseur, qui est joué par Valentin Clabeau.
Je vais rester encore un tout petit peu avec vous, Julien Lefkovitch, comme auteur. Comment est-ce qu'on fait pour prendre un peu de distance quand on utilise de la matière vivante comme des interviews? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire du simple verbatim interprété sur scène?
Et bien justement, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir comment en respectant parfaitement les archives qu'on utilisait, en la prenant vraiment comme une matière, comme un texte d'un auteur qui avait été écrite, j'ai dirigé les acteurs pour qu'ils puissent s'affranchir au fur et à mesure de ce qu'ils entendaient. Donc au fur et à mesure des répétitions, ils ont commencé à proposer des choses dans leur manière de jouer, dans leur manière de se regarder et de se mouvoir, qui allaient peut-être parfois complètement à contre-courant de ce qu'on entendait à première vue, pour créer des situations plus surprenantes que d'autres. Et puis après, c'est ce que je disais, j'ai écrit un texte, moi, qui vient donner de l'intimité au rapport et qui vient les éclairer d'une autre façon. Et c'est aussi grâce à ce texte-là que eux ont pu construire des personnages un peu plus complexes que ce qu'on entendait, ce qu'ils entendaient dans les archives.
Laure Blatter, je vous voyais approuver au propos de Julien Lefkovitch. Ce texte-là, vous en êtes emparé, vous avez fait des propositions, y compris d'ajout de texte ou d'adaptation du texte, ou c'était dans la construction des personnages?
Non, c'est vraiment un texte original de Julien Lefkovitch. Vraiment, on a travaillé comme une partition, comme des acteurs avec une matière. Après, quand on a commencé les répétitions, le texte était très long. Et donc, du coup, on en a choisi d'une certaine manière. Mais ça, c'est pas nous, les acteurs, qui avons choisi. Je veux dire, on a choisi au contact de la mise en scène, à affiner progressivement. Parce que le spectacle n'est pas très long, en fait. Au final, c'est une forme assez...
Il dure combien de temps ?
Une heure et quart.
Une heure et quart, d'accord.
Mais voilà, et donc c'était chouette aussi d'avoir plus de textes. Ça, c'est toujours bien d'avoir plus de textes à la base quand on est un acteur, parce que ça veut dire qu'on a du secret.
On est toujours avec Julien Lefkovitch et Laure Blatter pour parler. Il paraît que j'ai fait une petite erreur, c'est « Ce soir j'ai la fièvre et toi tu meurs de froid ». Le titre est juste. On parlait tout à l'heure de la militance d'un spectacle. Alors ici, dans Radio Scénique, on a une espèce de credo, c'est qu'on déteste les tracts politiques, on déteste quand on nous donne des leçons. La guerre c'est pas bien, le climat ça change. Voilà. Et votre spectacle, qu'est-ce qu'il emploie comme voix pour nous faire toucher du doigt la militance et le message qu'il a envie de faire passer, Julien Lefkovitch?
Bah oui, moi j'avais envie de faire un spectacle qui n'était pas forcément consensuel. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai utilisé ces archives qui parlent très crûment de sexualité, justement pour faire... pour renvoyer quelque chose au spectateur, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi, c'est-à-dire que pourquoi cette parole-là me semble au début complètement délirante, vulgaire, outrancière, et comment en réalité, d'une part, c'est un point de vue qui est un point de vue de pudeur la plupart du temps, et de frayeur ou que sais-je, et qu'ensuite, qu'est-ce que cette parole, elle cachait derrière? Et en fait, c'est justement via... tout ce que cette émission racontait d'amitié, de sexualité, de rire, de joie, que je voulais raconter aussi tout ce qui se passait dans la communauté derrière et pourquoi cette émission était une manière aussi de lutter, était une forme de militantisme à elle-même en soi, c'est-à-dire comment ils sont restés vivants par cette émission jusqu'à ce que malheureusement elle ait dû s'arrêter.
Laure Blatter, ce militantisme, il était très ouvert parce que la parole, elle était ouverte. C'était pas une émission particulièrement de parole homosexuelle, c'était une émission ouverte où chacun pouvait exprimer ses fantasmes d'une manière absolument libre, c'est ça?
Oui, absolument. Enfin, je pense qu'il y a cette chose-là où, en fait, on le dit souvent, c'est une forme de militantisme par l'acte, c'est-à-dire faire, dire, c'est comme ça qu'on lutte. Et c'est ce qu'ils ont choisi. Et d'ailleurs, dans le spectacle, il y a cette phrase à la fin qui dit « Il n'y a pas que le militantisme pour lutter ». Il y a aussi cette chose-là, vivre avec sa manière à soi de vouloir être et revendiquer cette manière d'être. Et cette manière, comme le dit le personnage de Yaya dans le spectacle, c'est quoi exactement ta phrase? C'est vivre... Bon, j'ai oublié, mais parce que c'est pas mon texte. Mais bref, il y a cette revendiquer son intimité et en rire. C'est aussi une manière de militer.
Julien Lefkovitch, justement, le rire dans ce théâtre de militantisme ou ce théâtre qui dit des choses, il intervient où ? Il intervient comment ? Est-ce qu'il est vraiment si important que ça ?
Le théâtre de militantisme qui dit des choses
Le théâtre qui fait rire.
Ah, le théâtre qui fait rire, pardon. Ben, il est partout dans tout le spectacle. C'est ce que disait Laure juste avant, et je vais d'ailleurs dire la phrase que tu voulais dire, c'est-à-dire un droit à exhiber nos intimités et d'en rire, c'est aussi un geste politique. C'est-à-dire que en fait, d'ailleurs, c'est même pour aller jusqu'au bout, un des personnages, celui de Laure Blatter, reproche un moment au personnage de Dany, de Guillaume Costanza, donc de David Girard, d'avoir tout pris à la légère tout du long. Et c'est aussi ce que il y a une phrase très précise que les gens découvriront, mais c'est aussi ce que nous on tente dans le spectacle, c'est-à-dire qu'au départ tout est pris avec le rire, tout est potentiellement rigolo, quoi, tout est potentiellement drôle et ouvert jusqu'à ce que forcément il y ait une soupape qui finit par péter, quoi. Il y a quelque chose qui vient s'inscrire différemment.
Le théâtre, c'est l'intime qui vise à l'universalisme. J'ai besoin de m'identifier au personnage. Comment on arrive à faire ça en tant qu'auteur, Julien Lefkovitch? Donnez-nous votre secret.
Ah, c'est une grande question parce que une des premières choses qu'on m'a dites quand j'ai fait ce spectacle pour la première fois, c'était quelqu'un de très proche de moi qui m'a dit tout était super. La seule chose que je peux dire, c'est que comme je suis pas un homosexuel qui a vécu dans les années 80, je sais pas ce que c'est, ce qui a été vécu. Après, j'ai l'impression que le but pour moi, c'était pas de parler c'était comme vous dites, c'était de parler de quelque chose d'universel. C'est-à-dire, c'est pas forcément un spectacle sur l'homosexualité, sur le SIDA, sur la radio. C'est un spectacle sur l'amitié, sur le deuil. Sur l'amour. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte que les personnages partent de leur propre situation très précise, très contextualisée, pour parler de sentiments un peu plus grands qui peuvent atteindre n'importe quel spectateur qui écoute le spectacle, qui regarde le spectacle.
Alors pour vous, Laure Blatter, ce soir j'ai la fièvre et toi tu meurs de froid, ce serait un spectacle sur quoi ? C'est quoi votre version du spectacle ?
Je pense que je suis assez d'accord avec Julien. Je pense que c'est vraiment un spectacle sur l'amitié et tout ce que contient l'amitié, c'est-à-dire on rit, on pleure ensemble, on vit des épreuves ensemble, on est embarqué dans des aventures, que ce soit des aventures de théâtre ou des aventures de radio ou des aventures de militantisme ensemble. Et en fait, parfois, il y a la mort qui guette et quand on perd l'un des nôtres, il y a quelque chose qui, pour le reste de sa vie, en restera amputé. Et je pense que le spectacle, il parle de ça, de jeunes gens qui ont été amputés de leur ami.
Dernier mot, Julien Lefkovitch, ce spectacle, il avait été donné sur quelques dates au Festival Impatience en 2025, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous aviez eu comme retour de cet objet étrange qui va puiser dans les années, dans les années 80 ?
Déjà, on a eu la chance de gagner un des prix du festival, le prix SACD, qui est décerné par le jury professionnel et pour récompenser l'écriture du spectacle au sens large. Donc ça, c'était déjà un très beau retour de la part de la profession, en tout cas. Et puis le public aussi a été très enthousiaste. Le gros retour qu'on avait eu, c'était ces choses qu'on dit là, c'est-à-dire c'est un spectacle qui, en effet, au départ, ne paraît pas du tout consensuel parce qu'il commence par un ton assez cru. Et c'est forcément très surprenant et qui en fait est assez doux ensuite, qui parle, comme disait Laure, d'amitié, d'amour et des choses qui viennent. C'est un décollage très fort et puis un atterrissage très doux.
Julien Lefkovitch, Laure Blatter, merci. On vous retrouve au Théâtre Paris-Villette pour ce soir. J'ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid. Merci.
Merci à vous.
Et pour conclure cette interview, je vous propose d'entendre l'animateur de Lune de Fiel lui-même.
David Girard.
Apostrophe David Girard chez Bernard Pivot, vendredi 11 avril 1986.
David Girard, vous publiez donc vos mémoires à 27 ans. Alors quand on publie ses mémoires à 27 ans, c'est que d'abord on est très content de soi, et puis qu'on a réalisé un exploit. Je vais vous dire pourquoi je vous ai invité. Je vous ai invité, non pas pour les qualités littéraires du livre, parce que pour ce qui est du style, ça ne vaut pas un clou. Mmh. Je suppose d'ailleurs que vous l'avez...
Ah ben je ne suis pas du tout un intellectuel de toute façon.
Non, comme ça, probablement, c'est même pas vous qui l'avez écrit.
Ah si, c'est moi qui l'ai écrit.
Alors, je vous ai invité simplement parce que c'est quand même un témoignage, je dois dire, enfin c'est un témoignage incroyable, je dois dire, moi quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça étonnant. Pourquoi ? À cause de votre sincérité, ça ne fait aucun doute, de votre cynisme, et puis je dirais presque de votre arrogance à certains moments, parce qu'on a l'impression que la morale pour vous, ça n'existe pas.
Pas du tout.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. À part ceux qui attaquent les petites vieilles, ou ceux qui tapent sur les bêtes, ou qui... Là, d'accord. Mais en ce qui concerne le sexe, on en fait ce que l'on veut.
Oui.
Le sexe, je pense que chacun a une sexualité et chacun l'assume comme il le veut. Maintenant, je pense que ce qui est différent, c'est qu'il y en a qui en parlent et il y en a d'autres qui n'en parlent pas. Moi, j'en parle.
D'une bande magnétique, un soupir lui échappe. Sur un écran géant, ses yeux se ferment.
Fin de ce 28e numéro de Radio Scénique, votre magazine de la création théâtrale sur Aligre FM. Jean-Louis Martinelli, metteur en scène, était avec nous en studio. Il nous a parlé de son spectacle, merci à lui. Sa pièce s'intitule « Un homme sans titre » et c'est au Théâtre de la Ville, place du Châtelet, tout là-haut, sous les toits, dans la salle de la coupole. « Un homme sans titre » est adapté de l'ouvrage éponyme de Xavier Leclerc et c'est Mounir Margoum qui en est l'interprète unique. Merci à Julien Lefkovitch et Laure Blatter qui nous ont parlé ce soir de Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid, c'est le titre, c'est présenté au Théâtre Paris-Villette. Merci également à l'équipe du Théâtre Paris-Villette pour son accueil. En dehors de nos deux invités, citons également dans la distribution Sarah Calcine, Valentin Clabot et Guillaume Costanza. Et toutes mes excuses d'avoir de multiples fois écorché le nom du spectacle, il s'appelle bien Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Pierre Demkoff m'a assisté pour la préparation de cette émission et c'est lui qui a concocté tous les sons de l'émission. Merci à lui. À la technique aujourd'hui, il y avait René Clancy. Un immense merci. Cette émission sera disponible d'ici quelques jours en réécoute sur le site d'Aligre FM, aligrefm.org, rubrique Nos émissions, puis Radio Scénique. On se retrouve dans deux semaines sur Aligre FM 93.1 à 10h. D'ici là, allez au théâtre, c'est là qu'est la vie. Restez à l'écoute sur Aligre FM.